Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 12 mai, Indochine en concert à Bercy le 29 mai. Ils ont demandé la Lune. En fait, ce sera un essai clinique grandeur nature avec 5000 personnes, concert test pour envisager une réouverture. Le directeur général de l'Accor Arena sera l'invité de ce journal. Plusieurs centaines de gendarmes mobilisés, 8 hélicoptères. Les recherches ont repris dans les Cévennes pour retrouver dans la forêt l'homme qui a tué son patron et un collègue hier dans une scierie. Une troisième garde à vue à Avignon après le meurtre du brigadier Éric Masson. Nous ferons le point sur l'enquête. Air France et Airbus renvoyés en correctionnel pour le crash du vol Rio-Paris près de 12 ans après le drame. Les familles de victimes sont soulagées. On est sur le pont de l'Ascension qui rime avec migration. 12 millions de Français vont bouger ce week-end. Bison futé voit même rouge en Ile-de-France et dans le sens des départs. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Dans l'ouest, la route sera humide.
Eh oui, et c'est une perturbation qui gagne la façade atlantique actuellement entre la Bretagne et les Pyrénées avec beaucoup de vent, des pluies soutenues sur le Finistère encore cet après-midi. Des averses orageuses en allant dans la partie sud sur une grande partie centrale du pays entre la Normandie et le Golfe du Lion. Un ciel mitigé, souvent nuageux, quelques petites averses et c'est beaucoup plus calme et plus lumineux sur la façade est avec un risque d'avalanche sur les Alpes du Nord et très beau entre PACA et Corse mais beaucoup de vent. Les températures, elles sont en légère hausse mais toujours sous les normales, donc un peu timide de 10 à 21 degrés.
La question du jour sur RTL.fr, la politique de la majorité favorise-t-elle la montée du Rassemblement National puisqu'il y a deux sondages qui donnent le Rassemblement National devant, en tête en région PACA. Eh bien, vous dites oui à 75%, il y a 19% de non. On attend vos arguments au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle, et effectivement, c'est pas le moindre des paradoxes, mais la consultation, pour le moment, donne une majorité écrasante. Autre sujet du jour, êtes-vous favorable au pass sanitaire pour l'accès aux grands événements? Êtes-vous prêt à présenter un justificatif de vaccination, un résultat négatif d'un test? Est-ce le meilleur moyen de retrouver au plus vite une liberté totale? Et puis, troisième sujet, quel conducteur êtes-vous au volant au moment où on va partir sur les routes? Quelles sont vos mauvaises habitudes? Faites-vous preuve d'incivilité? Au moment où la Fondation Vinci Autoroute a publié son baromètre de la conduite responsable. Et ce thème, il nous passionnera entre 13h et 14h30.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Il flotte dans l'air comme un parfum de liberté retrouvée. Plus de 12 millions de Français ont prévu de bouger, enfin, à l'occasion de ce long week-end de l'Ascension, en train, en car, mais surtout en voiture. La journée est classée rouge en Ile-de-France par Bison Futé, orange ailleurs. Attention au couvre-feu à 19h dans toute la France. Il ne faut surtout pas, Christophe Bourou, que cette contrainte incite les automobilistes à vouloir arriver plus vite.
Oui, car la sécurité routière redoute le coup d'accélérateur des derniers kilomètres pour arriver dans les temps. D'autant qu'une étude, Pascal Pro l'évoquait, celle de la Fondation Vinci Autoroute, révèle ce matin bien que les Français respectent peu les limitations de vitesse, selon Bernadette Moreau, à la tête de cette fondation.
9 Français sur 10 déclarent qu'il leur arrive de dépasser les limitations de vitesse.
Alors, une tendance qui s'est accentuée avec le confinement où les grands excès de plus de 50 km/h ont bondi de 21%. Autre source d'inquiétude, la somnolence au volant avec certains bons comportements qui sont moins pratiqués.
Par exemple, le fait de décaler son départ quand on est fatigué, moins 6 points. Le fait de changer de conducteur au cours du trajet, moins 4 points. Le fait de s'arrêter pour faire une sieste, moins 5 points. Et c'est regrettable parce que cette année, en particulier, les Français ont été soumis à une moins bonne qualité de sommeil due à la crise sanitaire. Il faut vraiment prendre des précautions avant de partir sur ce thème-là de la somnolence.
Enfin, pour ces départs, attention aux distances de sécurité. 7 Français sur 10 ne les respectent pas, soit le pire résultat en Europe.
Et d'après le baromètre de la Fondation Vinci qui examine nos comportements région par région, l'Île-de-France et la région PACA se disputent la palme de l'incivilité. Et en Europe, nous sommes les plus nombreux avec les Grecs à insulter copieusement les autres.
Marcel, 2 cafés pour la 4, s'il te plaît.
Et un soda pour la petite dame.
On entame aujourd'hui notre compte à rebours. Dans une semaine, nous retrouverons les terrasses qui nous ont tant manqué depuis 8 mois. Les restaurateurs trouvent que la jauge de 50% est trop restrictive. Alain Griset, le ministre délégué au PME, en visite ce matin à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines, a promis un assouplissement pour les plus petits établissements.
En terrasse, c'est 50% de la capacité, c'est-à-dire que s'il y a 50 mètres carrés, c'est 25 clients. Il y a des cas de figure où l'espace sera très réduit, donc là, il n'y aura pas de jauge. Parce qu'on ne peut pas faire de jauge quand il y a 4 tables ou 6 tables. Et donc le principe, c'est qu'il y ait des séparations entre les tables. séparation physique. Ça peut être un plexiglas, ça peut être des plantes. Et ensuite, le 9 juin, on aura réouverture à l'intérieur. Alors là, intérieur 50% et terrasse sans limite. Et puis le 30 juin, ouverture totale pour tout le monde, en espérant naturellement qu'on n'ait pas de difficultés à ce moment-là.
Alain Griset au micro RTL de Nicolas Burnand. Et après avoir bu un coup en terrasse, pourquoi ne pas aller à un concert? Pour l'instant, ils n'ont pas repris dans les très grandes salles, mais un essai clinique va être mené le samedi 29 mai à Paris, à l'Accor Arena, autrement dit Bercy, en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Un concert test avec sur scène Indochine. Expliquez-nous comment ça va se passer, Odile Pouget.
Alors, on va d'abord recruter des spectateurs sur des critères très précis, âgés de 18 à 45 ans, sans facteur de risque, comme par exemple l'hypertension ou l'obésité, sans avoir été également en contact avec des personnes atteintes du Covid depuis 2 semaines. 7500 personnes au total, réparties ensuite par tirage au sort en 2 groupes. 5000 personnes qui vont avoir la chance d'assister au concert et 2500 qui continueront à vivre normalement. Test antigénique pour tout le monde dans les 3 jours précédant l'événement et prélèvement salivaire 1 semaine après. Tous les cas positifs avant le concert seront écartés. Dans la fosse de Bercy, donc 5000 personnes debout, sans distanciation, dans un espace clos mais très bien ventilé. Gel hydroalcoolique à l'entrée, port du masque chirurgical obligatoire. Grâce aux nouvelles technologies, on va pouvoir, par caméra interposée, observer tous les visages et repérer à quel moment il y a du relâchement, quand les gens dansent, quand ils chantent. Et à l'issue de cette expérimentation, eh bien une enquête épidémiologique sera menée. Les 2 groupes seront comparés. L'objectif est de prouver que le fait d'assister à ce type de rassemblement avec test et port du masque n'augmente pas le risque de contamination. Résultat attendu fin juin.
Pas de cluster, bien sûr. Merci, Odile. Avec nous en studio, le directeur général de l'Accor Arena Paris-Bercy, Nicolas Dupeux. Bonjour.
Bonjour.
Pour vous, cet essai clinique, j'imagine, c'est le bout du tunnel?
Oui, c'est la lumière qui devient très forte au bout du tunnel. C'est 2 choses importantes pour nous. La première, c'est que cette expérimentation, et vous l'avez très bien expliqué, elle va pouvoir démontrer, on l'espère, que les jauges debout, pleines jauges, sans distanciation, mais en respectant un protocole assez strict, qui est celui du test en amont et du port du masque, n'engendre pas de propagation plus importante que la vie courante. Et puis la deuxième, c'est que relancer notre activité, c'est se redonner de l'espoir, c'est se redonner de la projection. On est quasiment totalement fermé depuis 18 mois.
18 mois.
Depuis le 1er mars 2020. On est interdit de concert debout.
Vous n'avez jamais rouvert?
Si, alors nous, nous avons rouvert en fait pour la fête de la musique au mois de juin, où nous avons fait un concert assis. Et puis nous avions accueilli 2 événements de sport en octobre, en novembre, dont notamment le tennis, mais qui s'étaient joués à 8 clos.
Donc, oui, vous voyez, donc on accueille.
Il faut savoir qu'à l'année, c'est 130 événements, la Cora Arena. Là, on en a fait 3. Donc
ça
on a très envie.
Ça veut dire, pardon, mais vous avez perdu combien de chiffre d'affaires?
On a perdu quasiment 80% de notre chiffre d'affaires.
80%, c'est colossal.
C'est colossal.
Qui pourra rentrer? Expliquez-nous comment ça va se passer ensuite, si tout se passe bien avec ce test. Il y aura des tests antigéniques à l'entrée? Il y aura un pass sanitaire? Expliquez-nous.
Alors, en fait, comme vous l'avez bien expliqué, il y a un site internet qui ouvre cet après-midi qui s'appelle Ambition Live Again, qui est le nom de l'événement, sur lequel chacun pourra s'inscrire pour participer en respectant un certain nombre de critères que vous avez cités pour la plupart. Vont être recrutés 7500, 8500 personnes qui seront toutes invitées à venir se faire tester dans l'aréna 3 jours, 2 jours ou la veille. On répartit ces tests sur 3 jours qui auront lieu. Alors, ça sera aussi là un peu magique. Les tests se situeront dans la fosse, en fait, là où se situera le concert. Si vous êtes testé positif, à ce moment-là, vous rentrez dans un processus classique d'être contacté par l'assurance maladie, etc., parce que vous êtes positif. Et si vous êtes négatif, il y aura un tirage au sort réalisé le vendredi soir, la veille, et vous serez soit dans le groupe expérimental qui pourra assister, soit dans le groupe contrôle. Donc 5000 viendront le jour J.
Mais ma question, c'était pour après, le jour d'après, si j'ose dire. C'est-à-dire quand vous allez reprendre les concerts normalement, est-ce qu'il faudra présenter un test PCR? Est-ce qu'il faudra présenter un pass sanitaire? Est-ce qu'il faudra faire des tests antigéniques? Parce que ça risque de créer aussi un goulot d'étranglement assez énorme.
On considère qu'il va y avoir deux périodes. Une période un peu transitoire, c'est pour ça que ce test est important, qui s'ouvre dès à présent, dès les mesures gouvernementales, notamment celle de fin juin, début juillet, qui nous permet de rouvrir sans restriction de jauge. Là, il y aura un pass sanitaire. C'est important pour nous que ce pass sanitaire soit mis en place, parce que c'est quand même dans cette période intermédiaire la possibilité de réouvrir. Ensuite, on espère que dans 6 mois, dans 9 mois, quand ça ira mieux, quand la vaccination sera totale sur la population, qu'on revienne peut-être en allégeant un peu ce pass sanitaire. Mais en tout cas, moi, je considère ce pass, il est essentiel. Sinon, on réouvre dans 9 mois, en fait.
Donc, pour vous, le pass sanitaire, c'est absolument indispensable.
Oui.
Est-ce que vous avez commencé à caler des stars internationales? Parce que ça, on se pose tous la question quand même au programme.
Alors, on fait un travail qui est à peu près le nôtre, c'est qu'aujourd'hui, on arrête de décaler des événements et de reporter des événements, ce qu'on a fait pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, il n'y a plus de report. Nos grands concerts vont recommencer à la rentrée et on a toujours, bien sûr, 3 concerts magiques d'Elton John au mois d'octobre chez nous. Donc, sa tournée d'adieu qui se déroulera donc en assis, parce que ce concert est assis.
Oui.
Et donc ça sera assez magique. Ça sera,
et ce sera un concert avec RTL en plus.
Exactement.
Ça tombe bien.
Donc, mais ça sera, voilà, je crois que ça sera formidable de pouvoir retrouver des émotions très fortes. Puis la tournée d'adieu de Elton John, ça va être un moment très fort.
Merci beaucoup. Merci Nicolas Merci. Dupeux d'avoir été l'invité de ce journal. Sachez que l'Olympia, qui est une salle beaucoup plus petite, rouvrira ses portes au public les 10 et 11 juin avec le Festival des Inrocks, avec une jauge à 65% de personnes assises. Un assouplissement aussi dans les facs. Elles pourront accueillir 50% des étudiants à partir du 19 mai contre 20% jusqu'à présent. Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, estime que ça leur permettra d'organiser des sessions de préparation, de rattrapage aux examens. Dans un instant, les élections régionales en PACA, c'est toujours aussi subtil.
RTL Midi. RTL Midi avec Christelle Rebière.
10 jours maintenant qu'on s'y perd sur ce pataquès en PACA. Y aura-t-il une alliance entre Renaud Muselier des Républicains et les Marcheurs pour les élections régionales du mois de juin? C'était oui, puis non, et finalement il devrait déposer une liste sur laquelle figurent des membres de la majorité, Jacques Serret.
Oui, des élus de La République En Marche, du Modem et d'Agir, toute la majorité donc, mais sur cette liste il n'y aura ni ministre ni parlementaire. C'est un petit tour de passe-passe qui permet à Renaud Muselier de prétendre qu'il n'y a pas d'accord d'appareil, mais seulement une entente à l'échelle locale avec certains candidats. La question maintenant, c'est que va faire En Marche? Est-ce que le parti va tout de même déposer sa propre liste concurrente ou bien décider d'écarter Sophie Cluzel, la secrétaire d'État qui devait être tête de liste? Là-dessus, c'est toujours le grand bluff. La liste est prête si besoin, nous disait hier un dirigeant d'En Marche qui cherchait à gonfler un peu les muscles. Ce matin, dans la majorité, on est beaucoup plus prudent. Soyons encore patients, me disait tout à l'heure un élu.
En attendant, 2 sondages parus ce matin donnent la liste du Rassemblement National conduite par Thierry Mariani en tête du premier mais aussi pour la première fois du second tour des régionales en cadre triangulaire, d'où la question du jour sur RTL.fr. La politique de la majorité favorise-t-elle la montée du RN? Une question sur laquelle vous allez revenir avec les auditeurs, Pascal Pro.
Effectivement, c'est une question paradoxale, mais j'ai le sentiment que l'exécutif roule involontairement, peut-être, sans doute, pour Marine Le Pen. Quand j'entends Éric Dupond-Moretti ne parler que de Marine Le Pen, d'expliquer qu'il veut la chasser du Nord. Je devine combien ces propos sont contre-productifs, combien ils irritent l'opinion. Quand j'entends encore Florence Parly, ministre des Armées, fustiger les généraux qui ont écrit la fameuse tribune, les traiter de factieux, je me dis que là aussi, elle joue les attachés de presse de Marine Le Pen. D'abord parce que c'est faux, ces généraux en retraite ne sont pas des factieux. Ensuite, parce qu'une grande majorité de Français partagent ce qu'ont écrit précisément ces généraux à la retraite. Enfin, quand je vois Jean Castex initier un retrait de La République En Marche en PACA, un ralliement à Renaud Muselier, tout ça pour faire barrage, comme ils disent, au Rassemblement National, je sais là aussi par expérience que ces actions agacent les électeurs. Ils y voient sinon une magouille, une politique de l'entre-soi, des petits arrangements entre amis. Alors oui, cette stratégie globale est contre-productive. Oui, elle n'a qu'une conséquence, l'envol du Rassemblement National.
Jacques Seret, vous êtes toujours avec nous. Il y a aussi, de toute façon, un problème de manque d'implantation régionale pour LREM.
Oui, très peu d'élus locaux, très peu de militants actifs et une ligne pas toujours très claire. Il suffit de voir les remous en interne depuis deux jours provoqués par ce débat autour de Sarah Zemahi, la candidate voilée présente sur une affiche de campagne. Et dans une région comme PACA, historiquement ancrée à droite, forcément, ça a des conséquences. L'autre souci, pour l'instant insoluble, il est dans les urnes. Qu'il y ait ou non un accord entre les Républicains et la République En Marche, quelle que soit la configuration, pour l'instant, d'après les sondages que vous rappeliez, c'est le Rassemblement National, la liste de Thierry Mariani, qui arriverait en tête au premier comme au deuxième tour, avec des scores allant de 36 à 39%.
Voilà, et si vous nous écoutez, dites-nous ce que vous en pensez au 32-10. 280 gendarmes, 8 hélicoptères avec recherche à infrarouge, des gros moyens déployés ce matin dans les Cévennes, autour du village des Plantiers, où un homme a tué hier matin son patron et un collègue dans une scierie. Le tueur présumé à 29 ans, Patrick Tégéraud, et un profil de survivaliste.
Oui, en effet, ce fugitif est véritablement le pire adversaire que pouvaient imaginer les gendarmes, surtout dans cette zone de montagne recouverte de végétation. Le colonel Haas commande les forces de gendarmerie sur place.
Il connaît très bien le terrain et il est armé, déterminé. On a quelqu'un qui est aguerri, qui sait vivre dans le milieu, qui le connaît parfaitement. Il est doté d'armes d'épaule et d'armes de poing. Il n'a pas pu tout emporter, mais il en a apparemment certaines avec lui. On a affaire, je vous l'ai dit, un adversaire déterminé.
Dans la vallée du Gardon, on s'inquiète. Anthony est chasseur, il connaît parfaitement le coin et pour lui, le fugitif a véritablement un profil de survivaliste rompu au camouflage et à la survie.
En face chez lui, il appelait ça son terrain de jeu. Il faisait des tirs lointains de précision.
Ah oui, ça le rend d'autant plus dangereux.
Oui, voilà.
Parmi les armes dont il dispose, il aurait un redoutable fusil à lunettes. Alors le pire scénario serait celui d'un guet-apens. Le fugitif pourrait attendre les gendarmes depuis l'entrée d'une grotte et faire des cartons. Les enquêteurs n'excluent pas non plus l'hypothèse du suicide, mais un corps est encore plus difficile à retrouver. Pas de traces, pas de signature thermique. De toute façon, la traque et la psychose qui l'accompagnent ne cesseront que lorsqu'il aura été retrouvé, mort ou vif.
Patrick Tégéraud, Plantier pour RTL. Une foule d'amis, de voisins, de collègues aux obsèques d'Éric Masson ce matin à Bédaride. Des obsèques dans l'intimité, au moment où le procureur de la République d'Avignon faisait un point ce matin sur l'enquête. Le principal suspect, âgé de 19 ans, et son ami sont en détention provisoire. Un troisième homme est en garde à vue. Il s'agit du propriétaire de la cave dans laquelle ils s'étaient tous les deux cachés. Une femme d'une trentaine d'années retrouvée morte chez elle à Reims, son compagnon grièvement blessé à proximité. Les enquêteurs privilégient la thèse d'un féminicide, suivi d'une tentative de suicide. Il y a quelques jours, un autre féminicide, l'assassinat de Chaynaise à Mérignac, avait suscité beaucoup d'émotions et de questions aussi sur le suivi de son conjoint violent et récidiviste. La mission d'inspection qui publie un rapport d'étape pointe aujourd'hui une suite de défaillances et de coordination entre les services de l'administration. Il y aura un procès pour le crash du vol Air France Rio Paris. On en parle dans un instant.
RTL Midi, avec Christelle Rebière.
C'est le crash le plus meurtrier d'Air France. Le 1er juin 2009, le vol Rio-Paris s'abîmait dans l'Atlantique faisant 228 victimes. Près de 12 ans après, jour pour jour, et de multiples batailles d'experts, il va y avoir un procès contre Air France et Airbus pour homicide involontaire. C'est ce qu'a décidé ce matin la Cour d'appel de Paris. Les familles des victimes attendaient ce moment depuis des années. Danielle Lamy est la présidente de l'association Entraide et Solidarité.
C'est pour nous une immense satisfaction d'avoir le sentiment d'avoir été entendu par la justice. Jusqu'à maintenant, toutes les décisions qui ont été prises par les magistrats étaient quand même assez contradictoires. Mais nous ne doutions pas qu'à un certain moment, un juge prenne le temps de bien lire le dossier, de prendre connaissance objectivement de l'ensemble des éléments pour pouvoir effectivement décider de le renvoi en correctionnel d'Airbus et d'Air France. Nous nous étions engagés à nous battre pour le respect des victimes et de leurs familles. Nous pourrons dire qu'effectivement nous avons tenu promesse.
Danielle Lamy avec Gauthier Delon-Bugard. Air France a fait d'ores et déjà un recours en cassation contre ce renvoi devant le tribunal correctionnel. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu un tel degré de violence entre Palestiniens et Israéliens. Depuis lundi, 1000 roquettes ont été lancées depuis la bande de Gaza vers Tel Aviv et le centre d'Israël. L'armée israélienne se prépare à une opération vers la bande de Gaza pour détruire les sites de lancement. Émilie Beaujard, y a-t-il vraiment un risque de guerre à grande échelle aujourd'hui ?
En tout cas, tous tous les ingrédients sont malheureusement réunis car les fronts sont nombreux et semblent pour l'instant hors de contrôle. Il y a d'abord Gaza, où le Hamas multiplie les tirs de roquettes et de missiles, des engins de plus en plus puissants et qui prennent de court l'armée israélienne. Dans le même temps, les bombardements israéliens sur la bande de Gaza s'intensifient. Des dizaines de bâtiments ont été détruits et des frappes ciblées ont visé des dirigeants du Hamas et du djihad islamique. À chaque fois, des victimes civiles sont à déplorer, côté israélien et palestinien. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou doit aussi gérer des émeutes qui ont éclaté dans différentes villes dites mixtes en Israël, comme Lod, Jaffa ou encore Saint-Jean-d'Acre. Et puis il y a aussi tout le mouvement de contestation à Jérusalem-Est contre les expulsions de Palestiniens. C'est d'ailleurs de là que le conflit de ces derniers jours est parti. Voilà pourquoi la situation est explosive, d'autant qu'en Israël comme en Palestine, les dirigeants actuels sont contestés et n'ont plus aujourd'hui le pouvoir d'éteindre l'incendie.
Émilie Beaujard.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Nous partons à Noaillac, dans le Tarn, pour une belle solidarité. Il y a 10 jours, une famille et ses 5 enfants a tout perdu dans l'incendie de sa maison. Mais depuis, tout le monde s'est mobilisé pour leur donner des meubles, de l'électroménager, des vêtements, des jouets. C'est presque la fête des voisins, Patrick Hisson.
Oui, le couple est aujourd'hui en capacité de redémarrer dans une nouvelle maison du village. Angèle et Patrick n'en reviennent pas.
On a presque fini de remeubler la maison, oui.
C'est un tsunami de solidarité. C'est même dur de trouver les mots.
Moi, je suis encore émue de voir toute cette solidarité autour de nous. On s'est aperçu qu'on avait un voisinage formidable aussi.
Et cette solidarité continue aujourd'hui encore, y compris celle des enfants du village, comme ceux de Caroline.
Ils ont préparé une grosse caisse de jouets pour les enfants. À l'école, ils en ont beaucoup parlé. Ils ont fait tous des coloriages pour décorer leur chambre, pour leur mettre du baume au cœur.
Serge Barbaste est adjoint au maire de Noaillac.
C'est un second Noël qui va leur faire oublier un peu ce qui s'est passé, quoi. Et je pense que ça a été surtout bénéfique pour les enfants et pour monsieur et madame Descatoire qui se sont trouvés du jour au lendemain, juste avec leurs pantalons.
Et tout le monde est fier de cette mobilisation, à commencer par Francis Mathieu, le maire du village.
On a été surpris par cette générosité qui s'est vraiment déclarée spontanément. Il faut savoir qu'à Noaillac, on peut compter sur les voisins.
Les dons sont tellement nombreux que la mairie envisage de vendre ce qui restera lors d'un vide-grenier au bénéfice de la famille sinistrée.
Et une belle solidarité des habitants de Noaillac, mais aussi de l'amicale du 8e RPIMA, le régiment de parachutistes de Castres, où a travaillé Patrick, le papa de cette famille. Football, Montpellier reçoit le PSG en demi-finale de la Coupe de France. Aujourd'hui, les Parisiens éliminés de la Ligue des Champions, distancés par Lille en championnat, risquent l'année blanche. Ce serait du jamais vu depuis 10 ans. Et puis ce week-end, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 floqueront leur maillot, leur numéro aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT. Les maillots seront ensuite mis aux enchères au profit des associations qui luttent contre l'homophobie. Pascal Pro, au menu dans 5 minutes avec les auditeurs.
Eh bien, croyez-moi, parce que je suis au standard avec nos amis qui écoutent les auditeurs, la politique de la majorité qui favorise la montée du Rassemblement National, c'est un sujet qui fait parler. C'est même le premier sujet du jour. L'autre sujet, ce sera le pass sanitaire. C'est intéressant parce que il y a la théorie et puis la pratique. La théorie, c'est vrai que c'est discriminant, mais la pratique, si ça permet d'aller au stade, d'aller en discothèque,
au concert,
pourquoi pas. Et puis, quel conducteur êtes-vous au volant? Je voudrais savoir quelle conductrice vous êtes, Christelle, parce que je trouve qu'on peut beaucoup masquer de choses dans la vraie vie, mais s'il y a un endroit où on ne peut pas masquer, je trouve que c'est le véhicule. Si vous voulez recruter quelqu'un, vous le faites conduire et vous savez tout de lui.
Je crois que je suis recrutée nulle part, alors.
Ah bon? Non, mais s'il est respectueux, s'il est courageux, s'il fait n'importe quoi, si, etc.
Voilà, vous voyez, je suis tout l'inverse de...
Non, j'ai du mal à le croire.
De ce que vous savez de moi.
Ben alors, c'est terrible, c'est-à-dire que vous masquez toute la journée.
C'est terrible, bon, pour Pascal. Non, pas tant que ça, je vous jure.
Ah bon, alors tout va bien. À tout de suite.
Allez, à tout de suite. La météo, Peggy Broche, c'est l'accalmie sur la façade Est qui a été bien, bien arrosée.
Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus calme, Christelle, plus sec également et plus lumineux en plus. Alors, peut-être 2-3 gouttes sur les frontières du Nord, mais pas plus. Et c'est même très ensoleillé entre la région PACA et la Corse, avec beaucoup de vent, notamment sur le Cap Corse. Ça peut souffler jusqu'à 110 km/h. Attention au fort risque d'avalanche sur les Alpes du Nord. Et puis en allant vers l'ouest, là, sur toute une partie centrale du pays, entre la Normandie, l'Île-de-France, jusqu'au Golfe du Lion, c'est plus mitigé. Entre nuages, quelques petites éclaircies, quelques petites averses localisées également. Et c'est sur toute la façade atlantique que le temps est bien perturbé aujourd'hui. Beaucoup de nuages, de bonnes pluies encore, comme ce matin sur la Bretagne. Des averses orageuses cet après-midi entre les Pays de la Loire et les Pyrénées, accompagnées de vent, de fortes rafales entre 80 et 90 km/h. Puis il y a de la neige dès 2000 mètres sur les Pyrénées. Côté température, elles remontent légèrement par rapport à la veille, mais elles sont toujours pas choix de saison, hein, comprises entre 10 à Brest et 21 à Nice, 14 à Nantes, 17 à Lille, Paris, Strasbourg, 18 à Lyon et Bordeaux, 19 à Toulouse, ainsi qu'à Perpignan et 20 degrés à Marseille.
Bon, et pour ce week-end de pont, c'est pas vraiment l'ascension des températures.
Comme c'est bien dit, je vous confirme, ça restera un peu frais. Des températures qui vont pas bouger finalement. Elles vont commencer à remonter et à revenir, mais à des normales de saison, donc une moyenne de 19 au nord, 21 au sud, uniquement dimanche. D'ici là, clairement, le temps sera, surtout le week-end, globalement maussade et instable pour tout le monde. Demain, du soleil uniquement dans le sud-ouest le matin. L'après-midi, ce sera couvert. Entre la Méditerranée et la Corse, là, ça restera beau toute la journée. Et ailleurs, un temps souvent nuageux avec des averses localement orageuses l'après-midi sur une bonne partie du pays et des pluies plus marquées toute la journée vers la Normandie.
Et ben, c'est pas grave, on en profitera quand même. Merci Peggy. À suivre le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
Et avant de retrouver Christelle Robière, nous sommes avec Mathieu, le pass sanitaire. Bonjour Mathieu, pour ou contre?
Bonjour. Liberticide, mais inévitable malheureusement, je crois.
Ah, c'est intéressant, effectivement, comme définition. Christelle, le rappel des titres.
Plusieurs centaines de gendarmes mobilisés, 8 hélicoptères. Les recherches ont repris dans les Cévennes pour retrouver dans la forêt l'homme qui a tué son patron et un collègue hier dans une scierie. On le surnomme le roi du shit, Moufid Bouchibi, l'un des plus gros trafiquants français de cannabis, est arrivé en France ce matin. C'est une information RTL. Il avait été arrêté à Dubaï en mars dernier, après une cavale de près de 10 ans. Les appels à la retenue, à la désescalade se multiplient. Entre Israël et les Palestiniens, la tension n'a jamais été aussi grande. Depuis 20 ans, Israël a mené ce matin de nouvelles frappes aériennes sur la bande de Gaza en réponse à une pluie de roquettes. Un concert test le 29 mai à Paris-Bercy avec Indochine, 5000 personnes dans la salle, 2500 à leur domicile comme groupe témoin afin d'étudier les contaminations debout dans une fosse. Si tout se passe bien, ce type de concert pourrait reprendre dès septembre. Pas de dérogation au couvre-feu pour le tournoi de tennis de Roland-Garros. À partir du 30 mai, il pourra accueillir un peu plus de 5000 spectateurs par jour jusqu'au 8 juin, puis un peu plus de 13 000. Le pass sanitaire sera obligatoire.
Les auditeurs ont la parole